RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Nicolas Jamain.
Mais oui, l'after est là jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, avec Damien Perrinel également. On déroule le fil de l'after. Dans un instant, on parle de l'Olympique Lyonnais qui jouait cet après-midi, du Paris Saint-Germain qui tenait en échec sur la pelouse de Nuremberg cet après-midi également, le Mercato Show. Mais on va finir sur la Coupe d'Afrique des Nations avec Jonathan et Damien. Sur vos équipes types, messieurs, on n'est pas allé au bout. On a libéré Timothée. Allons-y, milieu de terrain.
Vas-y Damien.
Damien. Je mets donc Gueye, Gueye-Douria et Bennacer. Parce que le milieu algérien a été le cœur de cette équipe et Guédouria notamment qui a été l'âme de l'Algérie.
Idrissa Gueye qui est passé à côté de sa finale également hier.
Bah, j'ai le même milieu de terrain.
Le même milieu de terrain.
Guédouria a importance vraiment maximum majeure, mais dans un rôle un peu obscur. Donc on a surtout parlé de Bennacer ou de Feghouli qui jouait un peu plus bas, mais il a été hyper important.
Justement sur Feghouli, j'ai hésité un peu parce que je trouve que c'était à l'image de cette équipe d'Algérie, quelqu'un qui a su mettre son ego de côté et on le voyait vraiment sur le terrain courir à tout va, faire des retours défensifs incroyables. Mais elle est pour le symbole et l'âme, ouais, Guédouria.
Ouais. Les trois devant.
Ah, je crois qu'on a les mêmes. Hein.
Certainement. J'ai Mahrez, ouais, Ighalo et Belaïli.
Pareil. Mais on n'a pas mis Sadio Mané. Alors que Timothée semblait dire que c'était une évidence. Sadio Mané, statistiquement, voilà, il met 3 buts, le Sénégal va en finale. Mais très franchement, le nombre de bons matchs qu'il a fait, j'en compte peut-être, aller un, en étant généreux.
Il démarre mal, il enchaîne mieux, et mais il finit pas hyper bien.
Je l'ai pas trouvé bon, je l'ai trouvé très fatigué, très émoussé, et il a surtout été victime, des choix de son entraîneur, qui a jamais su le mettre dans les bonnes dispositions. C'est un joueur qui est hors norme, c'est un joueur qui est de classe, mais le système de jeu du Sénégal était tellement brouillon, était tellement inexistant que Mané, voilà, a eu beaucoup de mal à exister.
Moi, au-delà de l'aspect sportif et terrain de Mané, c'est ce qu'il représente. Et aujourd'hui, il a un devoir, c'est de représenter quelque chose d'autre qu'un joueur de foot. Comme la Pulette, un Drogba.
C'est la grande question.
Un Eto'o.
Est-ce que t'as la personnalité
ou pas? Est-ce qu'il peut être un leader? Ça, on peut en douter, quoi.
C'est pas de la tout. Un Zidane, au début, il était tout timide, il disait rien. Il était
à la fin aussi.
Mais non, aujourd'hui il a un charisme naturel.
Oui, mais aujourd'hui il a un charisme qui est différent. Il s'est forcé. Il s'est appliqué à parler à la presse.
C'est peut-être là.
Mais oui, mais justement.
Ah oui, maintenant le Zizou entraîneur, tu parles.
Exactement.
Mais le Zizou joueur a toujours été timide et réservé.
Je pense qu'il faut qu'il évolue. Voilà, que ce soit une image pour la
France. Je sais pas s'il a ça en lui.
C'est vrai qu'on n'a pas eu de grand leader sur la CAN. Finalement, ça peut être aussi un flop. Leader charismatique, je parle.
Moi,
des Drogba et
tout.
Dans les flops principaux, c'est l'absence des stars.
C'est ça.
Regarde, Ziyech au Maroc, catastrophique. Salah, fantomatique. Mané, on peut dire ce qu'on veut, mais pour moi, il est moyen, voire très moyen. Donc au final, tous ces joueurs qu'on attendait, qui devaient être les étoiles de cette CAN-là, par rapport à ce qu'on disait là, avant la coupure pub, on disait, ouais, mais il n'y a pas vraiment de grandes stars, est-ce qu'on s'européanise? Non, c'est juste que les grandes stars, là, bah, elles étaient soit absentes physiquement, parce qu'à l'image de Mohamed Salah, qui a eu une saison très longue, bah, il est arrivé sur les rotules, soit ils n'ont jamais réussi à débuter leur compétition, à l'image de Ziyech, qui a plombé le Maroc.
Mais au-delà de ça même, à l'image du niveau de cette CAN, c'est ouais, où sont les stars? Parce que là, t'as une star par pays dans l'ensemble, mais avant, t'en avais 3-4 stars par pays. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'était autre chose quand même au niveau du charisme, au niveau de la personnalité des joueurs qu'on pouvait avoir dans ces équipes. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça qui manque dans certaines équipes.
Il y a un creux générationnel. Après, ce qui serait intéressant de voir, c'est de regarder sur les joueurs qui ont allé entre 20 et 22 ans, qui a le potentiel pour vraiment devenir une grande star.
Une dernière chose, Drogba. Ouais. J'ai joué contre lui quand il était à Montréal. Il avait 36-37 ans.
Ouais.
Mais tout le monde pense qu'il fait 1m95. Eh, Drogba,
il fait 1m55.
Il fait 1m53, c'est incroyable. Comme ça, 1m80. Mais il en impose tellement. Il dégage tellement.
Combien il mesure Drogba? Attends, on va regarder.
1m83.
Un truc dans le genre. Mais il paraît immense. Mais parce qu'il dégage quelque chose de différent.
Tu lui as fait la misère, tu m'as dit.
Tu l'as marché dessus.
Tu m'as dit que c'était un statut en plus.
Didier, appelle et dis comment ça s'est passé.
Beaucoup de papiers dans la Gazette de Montréal qui témoignent également de ça. Quoi.
Comment?
Damien Perrinel a marché sur Didier Drogba.
Ouais.
Ça a fait la une.
Bah, c'est
1,89 le garçon quand même.
C'est ce qu'il me disait pendant la pub, qu'il lui avait mis la misère et qu'en plus c'était un sale type et qu'il avait été content.
Parce qu'il était sur la pointe des pieds pour la taille.
Et qu'il était surcoté ce gars, Didier Drogba.
Les gars, s'il vous plaît.
Non, c'est pas vrai. Damien Perrinel n'a jamais dit ça, voilà, sachez-le. Et nous, on a dit tout à l'heure que l'Algérie allait manquer d'adversité, peut-être. Je vous rappelle que l'Algérie va jouer la Coupe des Confédérations en 2021 au Qatar. Évidemment, l'Algérie va jouer l'équipe de France.
Ça existe encore ce truc?
Bien sûr, ça existe encore, en de répétition. Okay. Ce sera au Qatar en 2021 contre également le Brésil, vainqueur de la Copa América, ouais. Contre l'équipe de France, ce sera en 2021. Voilà, on aura un France-Algérie au Qatar.
Justement, ça sera intéressant de les voir se confronter à un foot différent du foot africain. Une opposition avec des styles, comme je l'ai dit, différents. Et puis de les voir un peu dans la difficulté, mener au score par exemple, et de voir leur réaction.
Alors deux choses. Le style européen, je pense qu'ils ont été bien confrontés en jouant face au Sénégal, deux fois, parce que le Sénégal, c'est une équipe totalement européenne, quoi. À Lucici, c'est.
Ah, mais la manière dont ils ont joué hier, le Sénégal.
Ok, les gars, on va faire une équipe purement européenne.
Pour la huitième fois, la CAN, vas-y, j'en attends.
Quand ils sont menés, moi, j'ai envie de penser à ce match contre la Tunisie où ils sont pas menés, mais où ils se font égaliser et ils arrivent quand même à trouver les ressources pour marquer la dernière minute.
Voilà pour la Coupe d'Afrique des Nations, à dans deux ans. Cameroun maintenant, pour la prochaine CAN, tenant du titre, c'est l'Algérie. Pourquoi?
Non, ben on verra si ça
ça peut changer. Ouais,
ça peut changer. La zone est quand même légèrement en train de partir en cacahuète. Ouais, c'est une vraie poudrière et ça m'étonnerait pas qu'on soit amené à trouver un autre pays encore.
C'était les dessous du monde de Jonathan McCarthy. La minute
c'est ça,
géopolitique.
Les dessous du monde, c'est horrible. Attends, je t'en fais une en vrai si tu veux, mais pas comme ça, quoi.
Oh, quelle prétention. Incroyable celui-là. Evry, l'autre Coupe d'Afrique des Nations, documentaire en ligne sur YouTube depuis maintenant 6 jours, réalisé par Tristan Bodenay Pesotto et Thomas Porlon. Bonsoir messieurs, salut Thomas.
Bonsoir.
Tu viens de nous rejoindre dans l'after, merci d'être avec nous également. Vous avez suivi la CAN Epinetzo, ouais. C'est le nom de cette CAN.
Contraction de Épinette et Honnête en verlan.
Deux
quartiers frontaliers, vraiment frontaliers, Évry côte à côte.
D'Évry. Ouais. Alors, est-ce que vous savez comment est née cette CAN? Cette CAN parallèle entre guillemets.
En fait, ils en font souvent tous les étés. Hein. Ça, ils font des compétitions tous les étés.
Pas nouveau.
Intergénération. Interpays aussi, interquartier.
Ils changent de thème.
Et là, c'était une Coupe d'Afrique des Nations en écho à celle qui se disputait en même temps.
Alors, il n'y a pas les 24 sélections. C'est trop compliqué à mettre en place. Il y en avait une dizaine, c'est ça, hein.
C'est ça.
Thomas, il y avait qui?
Il y avait Maroc, Algérie, Tunisie, le Sénégal, le Mali. Une grosse communauté malienne aux épinettes. Il y avait qui? Il y avait la Guinée. Il y avait une équipe d'Homtom. Et le reste du monde, voilà, qui rassemblait des Togolais, des Camerounais, un Laotien aussi, il y avait des Turcs.
Moi, j'avais le droit de jouer dans le reste du monde.
Exactement. Ouais. Voilà.
Okay. Damien, l'année prochaine.
Si tu as vécu un jour au quartier, exactement.
Un jour, j'ai le droit.
Exactement.
Appelez-nous 3216 si vous avez participé ou été spectateur simplement de cette CAN à Évry, bien sûr, filmé. Allez voir sur YouTube, déjà 70 000 vues.
Ouais, 70 000 vues en 6 jours. Ça a démarré doucement. On s'est lancé un petit peu sur YouTube. On a dit, on va mettre ça sur YouTube et puis ça a pris petit à petit. Pas mal partagé, donc c'est sympa.
Vous êtes des jeunes journalistes, on rappelle que c'est un projet indépendant également.
Exactement.
Hein. Pas de production, grosse production Netflix ou autre chose. Non, c'est vous qui l'avez lancé.
Des longues soirées de montage à deux.
Comment l'idée est venue d'ailleurs?
Vas-y Thomas, je te laisse
raconter. L'idée est venue dans un train. En fait, on revenait journalistes pigistes tous les deux, on revenait d'un reportage.
Oui.
Et on est tombé sur une vidéo Twitter d'un envahissement de terrain. Justement, c'était un but de l'Algérie, je crois. Mmh. Et on est devenu un peu fou. On s'est dit il faut absolument faire un truc dessus. On a vu qu'il y avait pas mal de médias qui étaient dessus, mais on s'est dit qu'il fallait montrer l'intérieur de les coulisses de cette CAN, ce qui se passait dans le quartier. Et dès le début, notre idée c'était ça, c'était de montrer ce qui se passait dans le quartier.
C'est pas qu'un projet football. C'est pas que filmer du foot.
Exactement. C'est plus secondaire. Nous, ce qu'on voulait, c'était montrer des visages, montrer le quartier. Et le football, c'est juste, c'était un moyen d'y accéder en fait. Voilà, le tournoi, c'était un moyen d'arriver au quartier.
Tu parles d'envahissement de terrain. On se regardait avec Damien à l'instant. C'est fou quand tu mates le documentaire qui fait 28 minutes. À chaque but, tout le monde envahit le terrain.
Non mais c'est ça, le temps effectif de jeu, c'était quoi en fait?
Parce que le temps effectif de jeu, c'était 2 fois 30 minutes et ça faisait finalement, je pense, 2 heures de match. 2 heures de match, ah prolongation, ouais. Penalty, il y a des matchs qui ont fini en pleine nuit,
c'était le lendemain, ouais.
Éclairer la lumière des iPhones.
Des problèmes de batterie aussi souvent parce que les matchs duraient.
Ouais, 2 heures,
on a plus de batterie.
Dans un bon esprit, il n'y a pas eu de problème, aucun.
Pas eu de problème parce que c'était géré entre eux, tout le monde se connaissait et à partir du moment où il y a eu un problème, c'était 0 point pour les deux équipes, expulsion des joueurs. Et c'est réglé, donc il n'y a pas eu de soucis. Les grands du quartier étaient là, c'est eux qui arbitraient, donc on ne peut rien dire. Hein,
et vous avez eu du flair, allez voir ce docu sur YouTube, puisque vous avez choisi deux sélections, deux personnages. L'un est algérien, l'autre est sénégalais. Il y avait pour l'Algérie Jawad, le sélectionneur qui dort plus la nuit parce qu'il s'est pris au jeu. Ouais. Il fait ses compositions.
Marocain.
Ouais. Et également Barreau, joueur de l'équipe
du Sénégal
ouais. Également. Tiens, extrait, on a sorti un extrait du documentaire, écoutez leur témoignage.
J'ai des messages de supporters de partout sur mon snap, de Belgique, d'Hollande, du Canada, des Marocains un peu partout, et voilà, qui me rappellent que malgré que ça reste un tournoi amical, on représente le maillot, le drapeau, l'honneur du pays, donc on doit de... Déjà juste pour eux, on doit de tout donner quand même.
Ça sort de la routine, ça nous amuse. Moi ça m'amuse personnellement, tu vois. Tout le quartier, genre les mecs du quartier, les petits du quartier, les filles, les darons, les dads, tout le monde attend le week-end. Depuis le début de la CAN, tout le monde dans la semaine, ils attendent le week-end.
C'est fou, ça a pris une ampleur incroyable.
C'est ça. Démesuré, plus de 1500 spectateurs. Et surtout, ce qu'on a aimé, nous, là-dedans, c'est que les parents viennent voir les matchs, les filles viennent voir les matchs, les petites sœurs, les grands frères. Il y avait tout le monde et c'était magique à vivre.
Et toute la semaine au quartier, ça ouais. parle du match, ça parle de ça s'envoie des petits tacles, des petits pics, c'est on va vous battre, on va vous voilà et c'est ça qui a fait l'ambiance du quartier pendant un mois.
Comment vous avez préparé le terrain entre guillemets? Il a fallu y aller d'abord parce qu'on débarque pas avec une caméra comme ça du jour au lendemain.
On a contacté un joueur, Barreau, qu'on a entendu sur Twitter. Et puis on est venu un week-end sans caméra, voir comment ça se passait, si ça valait le coup d'être tourné. On a vite compris que oui. On est revenu au quartier sans filmer, un ou deux jours. Et puis ensuite, une fois qu'on les gens nous ont un petit peu repéré, on a sorti la caméra et on est resté trois semaines tous les jours avec eux.
Damien, t'as vu le doc également, Jonathan aussi. Il y a les séquences, il y a un niveau impressionnant parfois.
Alors, un niveau, ce qui me surprend, c'est qu'on voit des fautes. Ça plairait à Jonathan.
Il y a des mots de garde.
C'est sûr. Et l'arbitre ne dit rien. Parfois, il y a même des buts consécutifs à ces fautes non sifflées. Mais personne ne s'énerve contre l'arbitre. Et ça, c'est...
Qu'on voit, je sais pas.
Les arbitres étaient des grands du quartier. Donc on ne peut pas s'énerver quand un grand du quartier prend une décision. Mais pour en revenir au niveau de jeu, il y a des joueurs qui ont un niveau très correct.
Il y a un joueur d'origine marocaine qui était impressionnant dans le documentaire.
Qui ont écumé les divisions, deuxième division en Italie, Turquie, voilà des destinations un petit
quand
peu.
Quand même.
Il y avait un ancien joueur de l'équipe d'Algérie également qui était titulaire. Il y a quand même des joueurs de foot dans ces quartiers-là. Voilà, donc c'était sympa, sûr.
Mais après, on a du mal à se faire une idée, hein, parce que c'est vrai que les séquences foot, comme vous l'avez dit, sont un peu secondaires. C'est plus tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, mais on voit, c'est vrai, deux trois petits tacles bien sentis.
Jonathan.
Qui ferait rougir les. Mais tu l'as
vu? Oui, je l'ai vu. Et ce qui m'a vraiment fasciné dans votre travail, déjà bravo pour d'avoir fait ça.
Merci.
Parce que vous n'avez pas eu beaucoup de moyens, ça a été fait artisanalement et au final ça fait très pro comme rendu. Donc j'invite tous les auditeurs à aller le regarder.
Moi j'adore les artisans, hein.
Mais moi aussi. Mais moi aussi j'en ai ras le cul des startups. Moi je suis plus pour relancer l'artisanat. Mais ça
c'est un autre débat. Tu dis artisanalement. Ils ont des moyens.
Justement, je viens d'encenser leur truc en disant que c'était fait artisanalement. Donc, tu vois, monsieur, chercher la polémique, c'est tu iras faire le 6h-9h à la place de faire la.
Ouais, ouais.
Voilà. Donc, non, mais ceci étant dit, ce qui m'a vraiment fasciné dans votre documentaire, c'est surtout que ça c'est une retranscription parfaite de ce qu'est le football. Pourquoi le football, on adore le foot, pourquoi le football, c'est le sport numéro 1 dans le monde. C'est parce que le foot, il n'y a aucun autre sport que le football qui est capable de créer autant de liens sociaux, de créer autant de d'humains. C'est un peu con comme terme de dire d'humains, mais de relations humaines. Peu importe le niveau de vie des gens, peu importe l'origine des gens, peu importe la couleur des gens. Là, c'est dans un quartier, c'est dans un milieu qui est, on va dire, qui est relativement pauvre. Et quand tu vois ce que cette CAN à Évry a créé en termes d'organisation, de gens qui travaillent ensemble pour un but commun, de gens qui se réunissent, de gens qui vivent en communion, des gens qui peut-être, alors ça c'est peut-être un petit peu, je m'avance peut-être un petit peu, mais de voir que des gens qui étaient peut-être en conflit auparavant, de les voir tous réunis et soudés autour d'un même événement, ça on le ressent très bien dans vos documentaires et bravo pour ça les mecs.
Merci. Là, je pense que tu as bien résumé ce qu'on a essayé de retranscrire.
Après, je sais pas, vous avez peut-être quelque chose à rajouter, vous, là-dessus, sur le message que ça peut faire passer...
C'est exactement ce qu'on essaie de retranscrire à travers les images de Thomas, c'est que c'est universel et il y avait une espèce d'ambiance dans ce quartier-là où tout le monde avait envie de venir et des gens avaient envie d'en être, mais c'était que ce quartier-là et des gens qui peut-être se parlaient plus, voilà, le football a vraiment créé des liens qui existaient déjà mais qui ont été renforcés, et c'est ce qui a été dit dans le reportage par plusieurs joueurs.
Après
vas-y Damien.
On peut voir que voilà, les gens sont capables de faire des choses. En fait, là, on en discutait un peu pendant la coupure pub. Ce reportage qui peut être vu par tout le monde aujourd'hui montre qu'on peut faire des choses dans le quartier et que au début, il n'y avait pas d'autorisation. Ils se sont débrouillés tout seuls. Ils ont défoncé des portes et finalement, ensuite, les gens s'intéressent à eux. Donc, il y a eu un engouement même de la part de la mairie, c'est ça. Hein, il me semble ce que je vois dans le reportage. Et le message qu'on peut tirer de ça, c'est ne restez pas cantonné à un quartier. En fait, l'espace, il est libre pour tout le monde. Défoncez les portes, montrez que vous pouvez, vous allez intéresser les gens.
Au sens figuré, hein, défoncez les portes.
Non, mais enfin, je trouve que voilà, c'est une belle image en tout cas de ce qu'on peut voir dans le quartier.
On a voulu faire une sorte d'hommage au quartier, d'hommage à la mixité, parce qu'ils nous l'ont tous dit, ils sont français, binationaux. Voilà, c'est les pays des parents qui représentaient l'équipe reste du monde. C'était l'hymne français qui était diffusé avant les matchs pour eux. Voilà, c'est pas communautariste, c'est pas un reportage communautariste. Mmh, ouais. C'est vraiment la preuve que on peut vivre ensemble dans les quartiers. Thomas, je pense que
exactement. Et puis il y a aussi une valeur qui ils sont chers, une valeur, c'est la débrouillardise, c'est on fait tout nous-mêmes avec nos moyens. Donc au début, ouais, ils ont sauté la grille, et puis avec leurs contacts, leur réseau, ils ont réussi à avoir du soutien.
Comment c'est financé ce tournoi finalement? Il y a un budget, j'imagine, quand même.
Non.
Il y a du matériel, il y a rien.
Il y a du budget, il y a juste des rappeurs qui ont soutenu le projet, notamment Niska. Qui a fourni les maillots de toutes les
équipes. Il y a des messages de Benzema également, je voyais Benjamin Mendy, Didier Drogba envoyer des messages sur les réseaux.
Voilà. Il y a quand même une petite cagnotte, chaque équipe a mis un peu d'argent au début du tournoi pour financer les barbecues et d'autres extras à côté.
Ouais. Bon, la question, qui est champion de la Coupe d'Afrique des Nations d'Evry?
Ah ben, faut aller voir le reportage. C'est tout, on le dira pas, mais je pense que le champion représente bien l'image du quartier.
Exactement.
L'image du quartier. Oh, suspense. Damien?
Non, on en a rajouté, c'était.
C'est franchement hyper frais, c'est génial. Alors, toutes les dimensions sociales, sportives.
Il y a un truc. Justement, d'ailleurs, je crois que c'est votre intervenant sénégalais, je ne sais plus.
Baro.
Voilà. Il dit, on a pu ressentir ce que pouvaient ressentir parfois les joueurs de foot avec la pression.
Ouais.
Et là, et ça, c'est une bonne image. Parce qu'il disait, nous, devant la télé, on est là, on peut les insulter quand ils ratent quelque chose. Mais eux, devant 2000 personnes, ils doivent avoir la pression
au
aussi.
Non, mais
moi, je pense que pour les séances de tir au but, Damien.
Ils savent, voilà.
Tir au but, on fait l'histoire, hein, c'est très simple. Hein, séance de tir au but, tout le monde rentre sur le terrain. Il y a à peine la place pour le tireur de prendre son élan. Et le but est entouré par des centaines de personnes avec des gens qui lui hurlent dans les oreilles, quoi. Et c'est une proximité fois 100 par rapport à ce que les pros connaissent.
Et même tout au long du match, en fait, on a les lignes de touche, mais on les voit jamais parce qu'en fait, il y a toujours du monde dessus.
C'est marrant, ça.
Et que quand le ballon est de l'autre côté du terrain, tout le monde rentre, etc. Un corner, tout le monde rentre. Le coup franc aussi. Et puis même quand on a un geste technique de malade, et bah tout le monde rentre sur
le
terrain.
Comme disait Jonathan, c'est le vrai foot de rue, dans ce qu'il a de plus pur. Faut se dépêcher de jouer, faut jouer vite. Ça s'envoie des tacles. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire.
En plus, dans ce documentaire, vous montrez le vrai quartier. Ce que c'est vraiment le quartier. Et parce que c'est pas le quartier qu'on nous montre au JT télévisé où c'est les faits divers. C'est pas le quartier que une certaine personne va nous faire croire où c'est en quelque sorte un espèce de petit paradis.
Il y a aucun projet, aucune idée.
Non. Où c'est un petit paradis hyper aseptisé, où il se passe pas de violence. Tu vois, en France, quand on parle de quartier, c'est toujours les deux extrêmes là. Ce qui est bien, c'est que c'est relativement, c'est très honnête. C'est ça, en fait, le mot qui pourrait mieux qualifier vos documentaires, à mon sens, c'est que c'est honnête et qu'on a vraiment l'ambiance telle qu'elle était lors de la compétition.
On a aussi pris le parti de pas mettre de commentaires, de voix sur ce documentaire, les laisser parler eux de leur quartier parce que c'est
bien.
Les stars.
Stop voix off journalistique. Voilà. Arrêtons la culture journalistique.
Film sur Maradona,
merci.
La même chose. C'est pareil. C'est
exactement.
Génial.
Laissez vivre un peu de musique, pas trop non plus, et des séquences. Merci beaucoup. Merci Tristan Bonnay, Pesotto, Thomas Porlon. Il y avait 110 000 vues avant l'after. Vous êtes à 350 000. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour Evry.
J'espère que c'est monétisé un peu. Hein.
Même pas. On n'est pas obligé d'aimer le foot pour regarder sur Pantachet.
Évidemment que non, ce n'est pas. Ce n'est pas un documentaire sur le football, évidemment.
Absolument.
Sur le vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui en France, effectivement, même si Jonathan, t'es d'accord avec ça?
Le vivre ensemble.
C'est progressiste ou pas ça?
Un petit peu.
Mais c'est bien le progrès aussi. Evry, l'autre canne de Tristan Bonnay, Pesotto et Thomas Porlon, toujours bien sûr en ligne sur YouTube. Merci messieurs.
Merci à vous.
Prochain projet, il y a quelque chose? Le sport.
On va en discuter.
Ouais.
Voilà. Et pourquoi pas la CAN numéro 2 à Evry l'année prochaine.
Et bravo encore.
Et bravo encore pour cette initiative magnifique. L'after revient dans un instant. On va parler de foot, de pro, de très haut niveau, de Lyon notamment. Un match de préparation cet après-midi du PSG également. Tenu en échec à Nuremberg. Précision également. A priori, Gianni Infantino a supprimé la Coupe des Confédérations il y a quelques semaines. Elle existait encore avant la Coupe du Monde en Russie. Ouais. Elle pourrait être remplacée par une Coupe du Monde des clubs, mais ça a confirmé encore. A priori, on ne la jouera pas.
Et juste logistiquement, ça sera pas prêt, je pense, en 2021. Qatar, ils seront pas prêts.
Oui, ils peuvent construire d'autres salles intermédiaires, tu sais, ils sont capables de faire ça. L'after revient dans un instant avec Jonathan Macardy, Damien Perrinel. On est là jusqu'à minuit. Lyon, le PSG, le Mercato Show, bien sûr. A tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
L'Afterfoot jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, avec Damien Perrinel. On est ensemble dans un instant. On parle du Paris Saint-Germain. Messieurs, d'abord un mot sur les matchs amicaux. Batterie de matchs de préparation aujourd'hui pour les clubs français de Ligue 1 notamment. Tiens, il y a eu un Angers-Le Havre. Angers a gagné 3-2 avec un doublé de Fulgini et un but de l'international algérien. Deux sélections. Farid El Melali pour Angers. Brest a battu Guingamp, désormais club de Ligue 2, Guingamp 2 buts à 1. Monaco a battu le Valence CF, but du jeune Lyle Foster, 1-0. Vous connaissez ou pas? Pépite sud-africaine qui joue Orlando Pirates. Pas du tout. C'est un gamin de 18 ans qui promet énormément. Lyon-Genoa, le score, on va me le rappeler parce qu'il a évolué juste avant l'after.
4-3 il me semble.
4-3 pour Lyon.
Non, pour Genoa.
Pour Genoa, on va me le rappeler dans un instant. Je rappelle la composition de l'Olympique Lyonnais. C'est un 4-3-3. Évidemment, il va falloir s'y habituer, Jonathan. Avec Lopez, Tété, Yangambiwa, Denayer, Raphaël, Thiago Mendes, Jean-Lucas, Cheikh Diop, Kitala, 21 ans, jeune du centre. Guiri, 19 ans, jeune du centre. Et Martin Terrier devant. Donc on est vraiment sur le schéma préférentiel qui préfigure en tout cas de la saison, a priori, hein, lyonnaise, par Silvinho. Battu 4 buts à 3, les Lyonnais, face au Genoa, ça se jouait à Guignon. Maintenant, Emirates Cup, hein, dimanche pour Lyon. Alors, nouveau concept également, Emirates Cup, t'es directement en finale. Hein. Avant, c'était 4 équipes. Là, tu joues directement contre Arsenal. N'a plus aucun D'accord. intérêt au départ, quoi. Mais tu gagnes un trophée quand même si tu gagnes ce match. Lyon, messieurs, on en parle avec vous. Parlons de Silvinho surtout. Le nouveau coach olympique lyonnais. Un mot sur le match que tu as vu, Damien, quand même.
Ouais, j'en ai vu une partie. J'ai vu aussi le match contre le Servette de la semaine dernière, où ce qu'on a vu en deuxième mi-temps contre le Servette était très intéressant. On a pu voir vraiment les schémas de jeu et les consignes de Silvinho. C'est toujours comme ça en début de saison dans les matchs amicaux, lorsque l'entraîneur te dit de faire quelque chose, limite tu exagères dans tes attitudes. Donc, ça va être intéressant. Cette manière de jouer, d'aller tout le temps presser très haut, d'avoir des défenseurs qui n'hésitent pas à décrocher avec leur attaquant pour ne pas laisser d'oxygène, ils vont chercher à attirer l'adversaire dans l'axe pour éviter qu'il trouve les côtés et être étiré. Voilà, c'était dans l'axe récupération du ballon et aller vite devant. En tout cas, on a pu voir clairement une patte Silvinho là lors de ces deux premiers matchs.
Jonathan.
Ouais, c'est écoute, plus que le résultat, ce qui compte c'est le contenu. Donc bon, là en seconde période, il y a eu beaucoup de turnover, il a fait jouer beaucoup de jeunes, mais moi ce qui m'a intrigué c'est au milieu de terrain, je trouve Jean-Lucas vraiment intéressant dans la défense, intelligent dans son placement.
Je joue pas dans la défense si je peux.
Ouais, au milieu de terrain.
Voilà, c'est
Thiago. Ouais. J'ai trouvé intelligent dans ses placements, j'ai trouvé qu'il avait une belle qualité de passe, il hésite pas à se projeter vers l'avant. Ça peut être une belle trouvaille. Après le système au milieu de terrain, il avait annoncé en conférence de presse, hein, il y aura une vraie sentinelle. En l'occurrence là, c'était Thiago Mendes avec deux relayeurs. C'est intéressant et je pense que surtout il a les joueurs pour vraiment jouer comme ça. On attend Oussem Aouar qui va revenir à son meilleur niveau. Et quand tu te dis que le milieu ça pourrait être Thiago Mendes entouré de Oussem Aouar plus pourquoi pas donc du Brésilien Jean-Lucas, c'est quand même séduisant. Il y a du ballon là-dedans.
Jean-Lucas, intéressant parce que comme tu l'as dit, qu'il cherche la profondeur, qu'il n'hésite pas à faire des appels en profondeur pour créer des espaces et puis parfois même recevoir des ballons. C'est quelqu'un qui est très actif. On le connaît pas trop ici, hein, mais doté d'une bonne technique, est très actif et qui a une bonne caisse.
Damien, il y a un joueur moi que j'aime beaucoup à Lyon, c'est Cheikh Diop. Qui était très bon en Espagne, il a eu beaucoup de mal à s'adapter à Lyon. Bruno Genesio a pas vraiment su trop comment l'intégrer. Je pense qu'il a été mal géré, mais c'est un joueur qui est plein de qualité et j'ai trouvé sur cette préparation, il monte en puissance.
Il avait fait un bon match à Manchester City.
Exactement,
au match aller,
ouais.
Là, il me semble.
Ouais. Et je pense qu'il a vraiment sa carte.
De la compo de Genesio.
Il a sa carte à jouer cette saison parce que c'est un joueur plein de qualité et il avait payé quand même une belle petite somme, Diop. Donc j'attends de le voir.
Mais Silvinho vraiment il rebat les cartes là. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que même un Mapou, qui a pas fait un match l'année dernière.
Et attention, on est le 20 juillet.
Il pourrait mettre un jeune à sa place. Pas à le mettre.
Un dernier mot, Thiago Mendes. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel.
Buteur match.
Et là,
il va grandir sûrement à Lyon, on l'imagine.
Les passes qu'il trouve.
Les passes, elles sont belles. Les placements, ils sont parfaits. Sa relation, alors là, c'est une charnière. C'était Mapou et Denayer. Ouais, je trouve que déjà, ils s'entendent à merveille avec Jason Denayer quand il faut, tu sais, faire le petit pas en arrière pour permettre au bloc de se repérer
défensivement. Si on le rappelle.
Je trouve que Mendes, c'est un joueur ultra intelligent, ultra talentueux et au prix où ils l'ont payé, franchement, limite, j'ai envie de dire que c'est pas cher, quoi. C'est 27 millions, mais c'est pas cher.
Les buteurs lyonnais, Thiago Mendes, Mapou Yangambiwa et le jeune Boubacar Fofana, hein, qui est entré en jeu, qui a mis un but splendide dans ce match face au Genoa. Défaite de Lyon, 4 buts à 3. Il n'y a pas de jugement réel à faire sur le résultat, évidemment. On a fait tourner aussi côté lyonnais. On n'est que le 20 juillet. On a rencontré Silvinho avant ce match, justement. Je voulais qu'on parle de lui, messieurs, ce soir. Il est arrivé fin mai, le 29 mai dernier, à Lyon, dans les valises de Juninho, son compatriote brésilien. On va s'intéresser à sa communication et également ses premiers pas en tant qu'entraîneur de Lyon. Écoutez-le, écoutez l'habileté du gars. Il vient d'arriver et quelques jours il dit ça.
O prazer que um torcedor tem que sentir, e ele sente, É quando um time dentro de campo.
Le supporter vient au stade pour bien sûr avoir du plaisir.
Não é somente quando
Mais faz pas simplement parce qu'on aura marqué un but ou deux. Il faut qu'il voit son équipe vibrer. Il faut qu'il voit une équipe dynamique. Il faut qu'il voit une équipe qui soit performante durant 90 minutes. Il faut qu'il voit également l'effort du joueur sur le terrain. C'est très important. Bien sûr qu'un but, il y a l'extase du but. Mais ce n'est pas le plus important pour moi. Je suis passionné par le beau football, par le talent, par les joueurs. Et notre équipe est composée de talents et de joueurs.
Bon, c'est clair, hein, c'est très simple. Oui. Ça n'engage à rien, déclaration d'intention.
Il veut du beau jeu.
C'est des belles paroles, mais on va voir si ça va se concrétiser.
Ce que je vois sur le truc, là, quand il parle sur ce reportage, c'est exactement ce que j'ai vu en deuxième mi-temps contre le Servette, et là, sur la première mi-temps. Pourquoi? À un moment, il y a une remise en jeu, il y a un 6 mètres du gardien, et on voit Cheikh Diop, qui est là dans les starting blocks, qui attend qu'une seule chose, c'est que le ballon soit sur le central, et tout de suite aller presser le central pour l'empêcher de relancer comme il faut. Il y a tous les autres derrière qui suivent. En fait, ils alternent. Par moment, c'est moment de pressing, mais quand il dit je veux un jeu dynamique porté vers l'avant, tu vois tous les défenseurs et l'équipe de Lyon en général qui défend tout le temps en avançant.
Diop et Jean-Lucas sur ces phases-là ont été particulièrement brillants cet après-midi, avant la seconde période. J'ai trouvé vraiment très bon et très dynamique. Après, en plus, je sais pas, tu sais mieux que moi, Damien, ça. Mais je pense pas qu'à ce moment-là de l'année, tu sois dans ta préparation, tu dois peut-être être un peu plus rôti que comme
ça. C'est plus dur, compliqué.
Tu fais du foncier.
Ça demande beaucoup d'efforts courts, intenses. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette phase de préparation.
Exactement. Ouais. Donc ça, c'est dans l'intention, c'est parfait. Après, moi, j'aime bien Silvinho. Alors. Pourquoi j'aime bien? J'aime bien, déjà, il arrive, il parle, c'est clair, il est en forme.
On fait un truc avec sa petite houppette semi-brosse.
Non, mais j'aime bien, alors même ça, j'aime bien.
Couche-moi ça.
Déjà, j'aime bien parce qu'il est le mec, tu sens qu'il s'y file à la muscu, qu'il est en forme, tu vois. Que si ça file pas dans l'entraînement, tu le sens capable de mettre une petite baffe aller-retour à un joueur si ça va pas.
Avec le sourire.
Avec sa petite houppette, là, ça fait un peu martial.
Tu sais pourquoi il adore? Parce que tu pousses de la fonte comme lui, sûrement dans les salles de muscu pareil. Parce que t'as la même houppette que lui quasiment.
Mais non.
Si,
il irait sur le côté, lui, il a une houppette à la teinte.
Style forban, années 90.
T'es joueur, et tu vois un mec comme ça, tu vois un mec comme lui, là, avec
ta petite houppette
et tout. Il peut jouer, il pourrait même faire des jeux avec lui.
Dans son discours. Maurizio Sarri est un grand entraîneur, il bedonne et il n'y a aucun souci.
Il bedonne pas, il est tout maigrichon. Il bedonne pas, il a pas non, il est tout maigrichon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aime bien son discours parce que c'est clair, net, et surtout, tu vois, t'es passé quand même, pour être plus sérieux, de Bruno Genesio, qui était un petit peu le copain, la nounou, le confident de ces petits joueurs lyonnais qu'il avait au centre de formation, etc. Là, t'as un mec qui arrive, qui en a rien à faire de ce qui s'est passé auparavant, qui remet tout le monde, et surtout, t'as l'impression qu'avec lui, ça va filer droit. Et il y a des joueurs dans cet effectif-là, qui sont hyper talentueux, mais qui ont,
Memphis
à mon avis, Memphis de passe pour pas le citer, même Bertrand Traoré, qui ont besoin, je pense, d'avoir quelque chose d'assez carré, Fessé Cugnoli privé de dessert si ça va pas à l'entraînement. Et puis voilà, ça va filer droit. C'est une équipe qui a investi, qui a des joueurs de très bonne qualité, qui a des joueurs qui sont aussi très jeunes et qui ont un très gros potentiel à exploiter. Et ça a besoin de rigueur, tout ça. Et ça, Silvinho, il incarne la rigueur avec sa petite toupette.
De toute façon, de regarder les choristes, là, tu vois, le retour à la France, disciplinée.
Progressiste, va.
C'est pas une insulte.
La discipline, c'est pas une belle valeur.
Silvinho, oui, mais teinté aussi de liberté.
Bah toi, t'es pour l'écriture inclusive et compagnie, toi.
D'initiative individuelle également, tout ça. Après, le gars, il est protégé. Il arrive avec Juninho déjà. Il bénéficie de la légitimité d'un Juninho qui est l'immense star de l'Olympique. Non, mais ça aide.
Il y a deux choses. Il bénéficie de l'aura de Juninho. Il arrive comme étant le choix de Juninho. Eh oui. Et il bénéficie aussi d'un contexte très favorable qui est que les supporters, alors, parfois d'une manière démesurée, les supporters en avaient ras-le-bol de Genesio et voulaient vraiment voir quelque chose de nouveau. Et là, t'as le fantasme, tu sais, du clan des Brésiliens. Parce que les Brésiliens et Lyon ont quand même une histoire assez particulière. T'as ce fantasme du clan des Brésiliens qui revient, qui remet de l'ordre dans la maison, qui met le grand coup de balai, le grand coup de chausson là où il faut.
Il va remettre les choses en l'ordre. C'est vraiment le binôme. Clairement. Exactement. Tu sens que Juninho, il s'est pas réveillé un matin en se disant tiens je vais prendre Silvinho parce qu'il a une petite toupette, comme tu dis. Ils ont dû échanger pendant pas mal de temps sur une philosophie de jeu qui a été connue par Silvinho à Manchester City également. Alors toute proportion gardée, il y a des similitudes, voilà, hein, cette perte de balle, la récupération rapide du ballon, une projection très très rapide vers l'avant, pas trop de passes dans son camp, mais plus dans le camp adverse. Voilà, il y a pas mal de points communs entre ce qu'il a pu connaître à Man City.
Moi, c'est sur la débauche d'énergie qu'il demande à ses joueurs, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Ça me fait penser à ce que Tite a mis en place au Brésil depuis qu'il est arrivé. On sait qu'il était adjoint de Tite.
Oui.
Et ça se voit aussi dans l'esprit. Ouais, dans l'esprit, vraiment, c'est ça.
Le point faible.
Les joueurs à fond tout le temps.
Le point faible qu'on peut trouver sur un système de jeu comme
c'est
ça.
C'est le déséquilibre.
C'est le déséquilibre. Et t'as intérêt à avoir des centraux très intelligents dans leur placement.
Pierre, messieurs.
Et Thiago Mendes.
Et Thiago Mendes.
Thiago Mendes qui va être hyper
parce
important.
Parce qu'il va y avoir de l'espace dans leur dos.
Et Thiago Mendes, il a, sur 2-3 ballons, il a vraiment colmaté les bras chez ses centraux.
Pierre au 32-16 qui nous a appelé supporter lyonnais. Salut Pierre.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Pierre. Pierre.
Qu'est-ce que tu penses, toi, avant de parler du mercato des premiers pas de Silvinho? On va attendre, il n'y a eu que 2 matchs de préparation. Il y a des belles paroles. Est-ce que tu aimes la loupette de Silvinho? Le style Silvinho?
Eh, moi, la petite loupette, le petit dictateur, moi, j'aime bien l'esprit. Surtout
mais
que,
sérieux, les gars.
Bravo, t'es un bon Pierre.
Non, mais franchement, il se donne les moyens aussi d'être dictateur parce qu'il a 25 joueurs confirmés, il a 10 de jeunes. Ça veut dire que s'il y a un joueur qui le prend un peu pour un idiot, il aura les moyens aussi de le remplacer et il fait comprendre ça à tout le monde. Depuis qu'il est arrivé, il a dit aux joueurs, moi, ma philosophie, c'est la concurrence. Il y a un mec qui est pas bon, il va sortir. Et je pense que ça va quand même pousser les joueurs qui ont la grosse tête des joueurs comme Aouar, Memphis, à se concilier tout le temps, à faire plus attention peut-être dans leur investissement dans tous les matchs.
Qu'est-ce que tu penses du mercato lyonnais? On va le rappeler, hein, Joachim Andersen, danois, Thiago Mendes, Youssouf Koné, Jean Lucas, Cyprien Tătărușanu, le gardien international roumain.
Qui difficile cet après-midi.
Mais qui bon, est entré en jeu à la mi-temps, effectivement, ouais. Mais qui un très bon deuxième gardien si ça reste ainsi derrière Lopez, ce sera le cas. Qu'est-ce que tu penses du mercato lyonnais?
Niveau pour être en seconde
gardien. Moi j'aime bien parce qu'il est panaché, ça. Qu'il y a des joueurs que je ne connais pas, comme Lucas, comme.
Belle surprise, non?
Comme de ce que t'as pu voir. C'est excitant de savoir s'ils vont être bons ou pas.
Et il t'a plu, là, Lucas, sur les. Jean Lucas, là, sur ce que t'as pu voir?
Écoute, moi, je l'ai trouvé.
Franchement,
pas mauvais,
c'est surprenant.
Mais, c'est quand même limite de le juger sur 2 matchs, mais je suis d'accord avec toi qu'on sent un potentiel.
Tu sens le bon joueur. Et par contre, Andersen, c'est un super coup. C'est un très bon défenseur central. Très franchement.
Avec les moyens qu'on a mis, j'espère qu'il est bon.
Il est très bon.
Après, moi, ce qui m'inquiète avec Silvinho, quand même, c'est qu'il m'a l'air figé sur le 4-3-3. Et moi, j'aime bien quand même les coachs qui savent s'adapter à leur effectif. Et
justement,
que les autres s'adaptent à toi. Damien.
Que tes adversaires s'adaptent à ta philosophie de jeu et ne pas toujours être dans l'adaptation de ton opposant. Voilà, au moins, il a sa marque de fabrique. Il a ses repères. Les joueurs auront des repères en 4-3-3. Et puis, si à un moment ou un autre, en cours de match, il faut évoluer, je pense que ce sera le cas. Mais au moins, voilà, le joueur a son cadre. Et même dans les moments où ça va un peu moins bien, ils ont des certitudes dans un schéma de jeu.
Et en plus, ce qui compte, c'est l'animation au final. Parce que, franchement, quand tu es sur les phases de jeu offensif, c'est quasiment un 4-1, quoi. Ça veut rien dire 4-3-3. Là, tu vois juste, t'as les deux milieux relayeurs qui entourent Thiago Mendes, qui hésitent pas à se projeter, à aller super haut sur le terrain. T'as les latéraux qui montent, t'as les joueurs de devant qui permutent aussi. C'est ça qui était intéressant. Bon, alors c'était peut-être une consigne spécifique sur ce match-là parce que tu joues avec des jeunes, mais tu sens que c'est une équipe qui va être en constant mouvement. Alors, il va falloir être attention sur les phases de transition défensive, à pas être trop déséquilibré. Mais quand t'as pris un joueur aussi intelligent que Thiago Mendes, c'est pour justement remplir ce rôle avec brio.
C'est ça, quand tu vois leur milieu offensif qui n'hésite pas à aller presser les centraux adverses, c'est là où, t'as pas tort, c'est que c'est un constant mouvement. Hein.
Vas-y, Pierre.
Oh, moi, en tant que supporter, le changement dans la communication, quand j'entends les gars, on est là pour faire un pressing haut, et c'est fait, on est là pas que pour marquer des buts, on est là pour vous faire vibrer. Oh, mais qu'est-ce que ça change de Genesio, quoi? Alors, ouais, Genesio, il finissait 3e, et on se faisait chier, désolé du terme. Et là, moi, dans la com, déjà, il me plaît.
Dans la com, on a raison, parce que pour l'instant, c'est une déclaration d'intention. Ouais, bien, Pierre, faut attendre de voir.
Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de naître en termes d'identité de jeu. Je vois déjà des premières briques.
Mais les gars, les supporters lyonnais passaient à autre chose, quoi. Lâchez-lui. Fini, Genesio. Alors, il a fait son temps. Il a eu des résultats. Vous êtes fiché, mais regardez devant. Regardez, voilà, peut-être un truc, une aventure.
C'est la transition, si on n'en parle pas là.
Forcément.
Là, dans un mois, on n'en parlera plus. Mais aujourd'hui, je lui crache pas dessus. Hein. Genesio, il adore l'OL, donc on n'est pas là pour lui cracher dessus. Je dis juste que s'il veut progresser, c'est là-dessus. Maintenant, on tourne la page, on est avec Silvinho, On a plein de joueurs que, bah, des joueurs qu'on connaît, hein, peut-être, hein, Ousanou, Koné, Mendes, on va voir comment ça s'adapte. Des joueurs qu'on connaît pas, Andersen, et puis plein de jeunes. Il y a plein de jeunes. Fofana, il a été, il a mis un
but. Andersen, c'est, il est connu en Europe. T'inquiète pas. C'est Jean Lucas qui voilà, qui vient de notre continent.
Pas Jean Lucas d'ailleurs, faut le préciser à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de blagues là-dessus.
Et, non, mais, il est arrivé avec une certaine hype que Sampaoli avait été furieux de son départ, qu'il avait interrompu ses vacances pour le garder dans son club. Mais quand tu le vois jouer, tu comprends. Je comprends. Il a quelque chose, ce petit.
Bon. Merci Pierre. Et Pierre, il y a la loupette, et aussi entraîneur 3.0 là. Vous avez vu à l'entraînement ce qu'il fait à Lyon maintenant ? Il met un drone.
Avec des drones. Ouais.
Entraînement avec un drone, on n'a jamais vu ça en France. Bah, il est venu avec sa méthode.
Ça, j'aime moins, moi, ça. Ouais, c'est un peu trop futuriste.
Alors lui, il le justifie en disant,
moi, je suis plus pour l'artisanal, tu
ça
vois.
Ça permet de mieux travailler avec les joueurs, de mais voir ce qu'il faut bien faire, évidemment, non, avec une perspective. Ça permet aussi de voir ce que vous, les journalistes, marquez sur vos carnets.
Il a raison. Pour voir l'animation d'une équipe, il n'y a rien de mieux que de l'avoir du haut, non?
Non, mais d'accord. Bah, après, le problème, c'est que ça arrive qu'en 2019, en France.
Tu l'avais, toi, là-bas?
Nous, on avait pas le drone, mais on avait une grue. Aux États-Unis, on avait une grue. À côté du terrain d'entraînement, où il y en avait le caméraman qui montait, je sais pas moi, 15 mètres de hauteur, et qui filmait tout l'entraînement. Et le lendemain, on avait séance vidéo sur cet entraînement où on travaillait un truc spécifique tactiquement et sur l'adversaire,
ça aide,
sur nous et ça aide. C'est-à-dire que voilà, incroyable. Tu fais pause, marche, pause.
Tu vois vraiment le positionnement des joueurs.
Est-ce que ça aide vraiment la vidéo comme ça?
Ah mais ça aide vraiment de toute façon parce que là tu c'est-à-dire que si toi en tant que joueur tu estimes ah ben non j'étais bien placé parce que je pensais si et l'autre le coach te dit non regarde sur la vidéo t'es là il te manque 1 mètre 2 mètres et là qu'est-ce que tu veux dire quand t'es joueur tu peux pas rétorquer il y a l'image
t'arrives à le corriger dans le match après.
Ah bien sûr, au moins tu sais sur les intentions ce que tu recherches. Là, j'ai un exemple en tête tout de suite sur un Mapou en première mi-temps qui colle pas son attaquant parce que il est 1 ou 2 mètres en retard, ce qui fait qu'il recule. L'attaquant se retourne et fait reculer le bloc lyonnais sur 20-30 mètres. C'est un exemple, voilà. Mais bah en vidéo, je suis persuadé que Sibinou va lui dire, tu sais là, mais en fait t'es en retard. Il faut l'empêcher de se retourner et comme ça ton équipe ne fait pas 30 mètres en arrière. Voilà, c'est des choses comme ça que tu vas travailler lors d'un entraînement.
C'est encore une bonne nouvelle alors.
Voilà, Sibinou opération séduction. Pour l'instant, ça marche pour l'entraîneur brésilien. On verra. On l'a dit, l'Emirates Cup désormais Arsenal pour Lyon. Ce sera la semaine en fin de semaine à l'Emirates, bien sûr. Enfin, la semaine prochaine pour les joueurs de Sibinou. Merci Pierre d'avoir appelé 32-16.
Salut Pierre.
Merci. La loupette ou pas Pierre?
Pardon. Non.
Est-ce que je... non
la loupette style. Tu te rappelles Pierre Lègle, hein, grand ambassadeur de la loupette à Lyon.
Je peux vous dire, j'ai fait mon centre de formation Picardie et à l'époque.
T'avais la houppette.
La golf GTI avec la houppette.
Elle était customisée ou pas?
C'était pas la mienne. Non, c'était dans la ville, il y en avait pas mal, ouais.
Et Florent Maurice l'avait aussi également, Pierre. Merci, ouais. Pierre. Ciao, après, Pierre. Il est parti aux États-Unis, Damien. Et là, il a fait la coupe David Charvet. À l'Arsenal, c'est ça. Malibu, tu vois.
Justin Bieber au début.
Justin Bieber aussi. Ensuite,
ouais. Justin Bieber, c'est quoi?
De la mèche.
Justin Bieber, c'était la mèche.
C'est l'acteur, là.
Non,
c'est lequel? C'est lequel? Je confonds.
Non, mais alors, monsieur. Ne lit que le monde diplomatique, il connaît pas Justin Bieber.
Mais si, c'est le petit jeune là, de
le
Disney.
Petit jeune,
là. Le
mec
maintenant.
De Disney.
Adulte, oui. Mais il a pas une mèche, je crois qu'il a les cheveux rasés, non?
Il a eu.
Ouais. Les cheveux roses, j'ai vu une photo, il avait les cheveux roses.
Nous, on l'a connu, il avait 13-14 ans. Tout était trop jeune.
Vous étiez trop hype, vous êtes trop hype. Pour moi.
Exactement.
Sur l'Orient.
L'after revient dans un instant, bien sûr. Le Paris Saint-Germain. Voilà, revenez ça.
Oui, oui.
Je te verrais bien chanter d'ailleurs.
Ouais, oui.
Non, mais c'est une question de culture. T'aimes pas, mais il faut connaître.
Oui.
C'est un chanteur.
C'est, j'aimerais qui c'est. Entre l'autre, il nous a fait mettre Nadia la dernière fois et ça, là, c'est dur quand même.
Je te rappelle. On revient dans un instant pour la fin.
Ouais, ça plus jamais.
Avec Jonathan Macardy, Damien Perrinet, le Mercato Show. Et on va débriefer le match nul du Paris Saint-Germain cet après-midi à Nuremberg, à Saint-Étienne. Non, a priori. On a fait tourner côté PSG. On revient dans un instant avec Damien Perrinet et Jonathan Macardy. A tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Et on est là ensemble jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, avec Damien Perrinet. C'est l'After Foot, bien sûr. Après Lyon, on va parler du PSG, bien sûr. Après ce match nul du PSG, messieurs, un but partout. Deuxième match de préparation en Allemagne. Après Dresde, victoire 6-1. Match nul 1 partout sur la pelouse de Nuremberg cet après-midi. La composition, je vous la donne, messieurs. Composition sérieuse au départ, hein, alignée par Thomas Tuchel. Areola dans le but. Gardien numéro 1, a priori, sauf une arrivée impromptue dans quelques semaines.
Il va avoir une arrivée de gardien, je pense.
Ah, Donnarumma, on lâche pas
l'affaire. Je pense qu'il va avoir un gardien, parce que Areola n'a pas le niveau.
Sur le départ, hein, également, on le rappelle. Hein,
Areola n'a pas le niveau pour un numéro 1 du PSG. Il faut absolument qu'il recrute un gardien.
Damien ?
Pareil, je trouve qu'il a une étiquette, Areola. Après, maintenant, il te faut un gardien qui te fasse gagner des points. Et aujourd'hui, Areola, t'en fais pas perdre. Mais voilà, il faut qu'il t'en gagne maintenant.
Meunier, latéral droit, Kerrer, Kurzawa, Bernat en défense. Donc Verratti, Herrera devant la défense, Sarabia, Draxler et Mbappé, Ressé. Incroyable, Ressé. Il enchaîne les matchs de préparation. Il a plus joué cet été que la saison dernière, je crois.
Non, mais j'ai vu une photo à la reprise de Ressé. Il ressemble malheureusement qu'il avait pris un peu de poids quand même. C'était assez compliqué.
C'est Ressé qui a mangé Ressé un peu quand même.
Ouais.
Non, mais là, sur la composition d'équipe que.
Mais il va revenir, il a du temps encore dans la prépa.
Oui, ça se perd vite.
Il a 2 ans pour revenir, il lui reste 2 ans de contrat, il est bien. Oui.
La bidoche, ça se perd assez vite quand tu t'y mets.
Oui.
Oh, je dis ça comme ça.
Damien réagit à cette attaque de Jonathan McCarthy.
Mais c'est pas une attaque.
Non, mais après.
C'est vrai.
Pourquoi je me sens pas visé, c'est que la bidoche.
Bah non, pas du tout.
Pas
du tout, Damien.
Un partout, messieurs. Un partout. Rappelons également, avant de débriefer ce match, qu'en deuxième période, il y a eu revue d'effectifs total. À la mi-temps, Trapp est rentré. Gouklou est rentré. Kwasi, Bakker, Nsoki, Aouchiche, Emmans, Mbesso et Toufiki sont entrés. Le PSG menait 1-0 à la mi-temps sur un but de Sarabia, égalisation. Sur penalty, sur une main. On l'a vu enfin, d'Abdou Diallo.
Ouais.
Voilà. Damien, t'as vu le match, qu'en as-tu pensé? Surtout la première période qui compte.
J'ai vu le match, et au début du match, je me suis dit, tiens, je vais voir la composition d'équipe, et en voyant un peu l'évolution tactique, je me suis dit, tiens, je vais marquer les noms sur un papier, et puis voir un peu ce que ça donne. Mais en gros, le problème avec le PSG, c'est que tu peux faire ce que tu veux sur le papier une fois sur le terrain. C'est complètement pas désordonné parce que c'est un bordel organisé. Tout du moins lorsqu'ils ont le ballon, on voit Herrera qui fait un peu ce que faisait Marquinhos l'année dernière, c'est-à-dire à redescendre dans les centraux pour sortir le ballon.
Ah, ouais.
On a vu des Meunier et des Bernat très très haut sur le terrain. Après aussi, on va préciser qu'il y avait Kurzawa qui jouait central gauche, donc ce qui
c'était assez curieux.
Voilà. Mais intéressant de voir tout de suite quand même l'implication de Herrera et Sarabia,
ouais,
qui ont pu apporter une touche technique intéressante à cette équipe. Sarabia qui a marqué sur un exploit d'Mbappé sur le côté, qui a fait il lui a fait la totale, petit pont centre.
Ouais, lui il est prêt déjà.
Tête de Sarabia. Exactement. Non, et après un Draxler que j'ai trouvé un peu timide, et Draxler s'il veut une place et voir autre chose, faut qu'il
se mette un petit maintenant
faut qu'il s'y mette,
faut qu'on lui botte un peu le cul.
Il est beau, t'es beau. Voilà, quand tu joues, t'es magnifique, mais il faut que tu sois un peu plus efficace quand même.
Il se regarde jouer un petit peu, ce gars.
C'est ça.
Et il aime pas trop se faire mal, je pense. C'est ça son problème.
Meunier qui est sorti au bout d'une demi-heure, est surprenant. Je sais pas pourquoi. C'est là que Diallo est rentré. Et Diallo, match terni par cette main, mais qui a été très sérieux. Et il est calme, serein quand il a le ballon. C'est assez surprenant.
Première positive pour Diallo pour toi.
Ouais, première positive.
Le pénalty, c'est anecdotique.
C'est ça. Et puis il était un peu seul au monde. Hein. Sur un contre, il était tout seul à revenir.
Il était mal entouré.
Nsoki qui se fait éliminer facilement et derrière.
Faut pas lui
rendre
de rigueur. Non. Sur ce match-là du PSG, je rejoins Damien sur le fait que les deux recrues principales, là, Herrera et Sarabia, ont été hyper intéressantes. Alors on a eu des longs débats avec Kevin sur le positionnement de Marco Verratti. Et là, en l'occurrence, Marco Verratti, ça lui fait du bien, je pense, d'avoir un vrai numéro 6.
De jouer plus haut. Hein.
De jouer plus haut, voilà, de jouer quasiment, je dirais pas numéro 10, mais de jouer plus haut sur le terrain. Mmh. Et d'avoir une vraie sentinelle. Je sais que le terme est un petit peu décrié, mais d'avoir le mec, comme tu le disais, qui fait le petit pas en arrière, qui se met entre ses centraux, qui permet de colmater des brèches, et qui, sur les phases offensives, permet à Verratti, voilà, d'avoir un petit peu plus de liberté. J'ai trouvé Verratti bon, et sa complémentarité avec Herrera, intéressante pour deux joueurs qui n'ont somme toute pas joué non plus 10 000 matchs ensemble pour l'instant. Et Sarabia, il me plaît de plus en plus parce que il amène quelque chose d'un peu différent.
Premier but avec le PSG aujourd'hui.
Son but à la rigueur, on s'en fiche.
Il met bien de la tête.
Ouais. Mais je trouve qu'il apporte quelque chose qui manquait peut-être au PSG. C'est alors de la vitesse, ils en avaient déjà. Mais je trouve que pour un joueur de côté, par rapport aux joueurs qu'ils ont, il est quand même hyper collectif. Il oublie pas les autres. Je le trouve intéressant dans son jeu aussi sans ballon. C'est pas parce qu'il a pas la balle qu'il arrête son appel. Je l'ai vu 2-3 fois embarquer totalement l'intégralité du couloir de Nuremberg et de permettre de créer des brèches. Dans l'axe pour Kylian Mbappé. C'est un joueur qui est très intelligent, qualité technique supérieure à la moyenne, et quand tu vois le prix auquel ils l'ont acheté, tu te dis c'est ça a tout de la bonne affaire. Alors maintenant, on va attendre de voir le retour des internationaux, parce que c'est surtout là-dessus qu'on va, enfin des Brésiliens notamment.
On rappelle que Neymar n'a pas fait le déplacement à Nuremberg.
Mais surtout, on va attendre le Thiago Silva, Marquinhos, on va attendre la charnière centrale,
Cavani,
la titulaire, on va attendre Edinson Cavani, on va voir comment tout ça va se goupiller. Mais pour l'instant, pour ce mercato que je qualifierais pas de low cost, si je dis low cost.
On va en parler justement.
Si je dis low cost, on va dire que c'est péjoratif, mais pas du tout. Si on est malin, c'est encore mieux. Parce que le PSG, pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas vraiment dépensé d'argent. Quand tu fais le bilan achat-vente, tu te dis, écoute, bah, t'as déjà deux joueurs qui t'apportent une vraie plus-value. Herrera, Sarabia. Et t'as le petit Diallo qui montre que, voilà, bah, ça va être un bon défenseur central pour la rotation.
On va faire le débat après, ouais.
Très bien. Tu te dis, là, pour l'instant, après, c'est intéressant.
Est-ce que ce recrutement est suffisamment ambitieux pour le Paris Saint-Germain pour aller loin en Ligue des Champions? On en parle dans un instant. Thomas, au 32-16. Salut, Thomas.
Salut Nico, salut Damien et Jonathan.
Salut Thomas. Supporter parisien. T'as pensé quoi de ce match aujourd'hui face à Nuremberg?
Alors moi je me suis intéressé à l'heure de jeu, on va dire, là où les potentiels titulaires ont joué avant de faire rentrer les titis. Pour revenir sur les recrues, parce qu'en fait moi j'ai regardé aussi le match de Dresden aussi, mais pas pour... Bon, je sais comment joue Verratti, je sais comment joue Kurzawa, je sais, on va dire, les joueurs déjà en place, c'est pas pour ça que je regarde, on va dire. Ouais. Je m'intéresse aux recrues, vous en avez parlé. Et alors Jonathan, tu dis low cost, mais je vois ce que tu veux dire, c'est parce que c'est pas clinquant comme ça d'entrée, etc.
C'est que ça vous a rien coûté surtout.
Exact. Mais moi, je suis très
gratos, Herrera. Hein.
Je suis très satisfait des trois joueurs que vous avez évoqués parce que ce sont déjà des joueurs avec un QI foot très développé. Ce sont des joueurs très intelligents. Vous avez parlé de Diallo. Moi, je connais. Enfin, j'ai beaucoup regardé la Bundesliga l'année dernière, où je l'ai déjà vu jouer. Il a confirmé le joueur qu'il est, très calme, très serein. Il est jeune, il joue comme un mec de 28-29 ans. Herrera, de toute façon, voilà, au bout de 2 minutes de jeu, il va aller caresser des chevilles, quoi.
Ça fait du bien d'avoir enfin un vrai 6, parce que t'en avais plus vraiment depuis le départ de Thiago Motta.
De là à dire un vrai 6, je sais pas.
D'un mec qui accepte de jouer vraiment en 6, si tu lui préfères.
Ah, oui, mais d'un mec qui, comme il l'a dit, va accepter de jouer partout. J'adore cette mentalité. Voilà, c'est un joueur, c'est un couteau suisse, quoi. Tu peux le mettre. Il va donner de sa personne à chaque fois. Et Sarabia, j'aime bien parce que déjà gaucher, gracieux, enfin voilà, très 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 intelligent aussi dans le jeu. Je vous dis, les trois
efficace
joueurs,
surtout. C'est-à-dire qu'il va pas chercher un geste technique superflu.
Il est plus
sobre. Il va faire le bon contrôle. La vraie technique, la pure technique, il l'a.
Il l'a, et moi il me fait, alors toute proportion gardée, je dis pas que c'est la copie conforme et tout, mais sur certaines phases de jeu, quand il joue haut et quand il a vraiment, quand il s'intercale entre les lignes ou dans le couloir, il me fait penser à Pastore à l'ancienne forcément.
Ouais.
Mais dans des séquences de jeu, si tu veux, techniquement.
Ouais, il a cette élégance aussi.
Ouais, voilà, il est quand même plus rapide, plus vif, moins nonchalant qu'un Pastore qui était.
Bien sûr.
Pastore était rapide quand il voulait, hein.
On va dans l'exécution, pas dans les courses.
Il l'a pas voulu souvent.
Je les compare au niveau de l'élégance.
Il était rapide quand il voyait. Il voyait vite.
Contre Chelsea, là, s'il était quand même.
Non, vas-y. Tu parlais de l'élégance. C'est important.
Ouais, parce que je trouve que voilà, c'est un joueur. Voilà, avoir joué, il est beau. De toute façon, on demande à un joueur ce qu'il soit efficace dans un premier temps. Mais voilà, ça amène une touche technique et c'est un profil que Paris n'avait pas. Parce que, quand il est arrivé, Sarabia, je me suis dit, ça se rapproche. De quel joueur on se rapproche avec l'effectif qu'on a? Je pensais à Draxler dans un premier temps, mais donc du coup c'est pour vous dire, c'est quand même des joueurs qui sont pas du tout pareils. Au final, c'est vraiment une option supplémentaire pour cette année avec Sarabia. Je suis très content, voilà. Je suis très content de ces joueurs. Et puis après, je sais pas si du coup on va recruter. Grand nom, on va dire ça comme ça, je sais pas.
Dybala, pour l'instant, il n'y a pas de grand nom. On va parler de Dybala dans un instant, effectivement, avec nos infos RMC Sport. Sarabia, mais si on est d'accord, on part pas a priori sur un titulaire en puissance.
Non, mais d'abord.
On est sur un joueur qui va.
Dans la rotation.
Évolue en Ligue 1. Tant dans la rotation, mais en Ligue des Champions, il débute pas.
Ou non, je ne pense pas. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il a. Enfin. Les joueurs qui sont censés avoir qui étaient censés avoir ce rôle-là l'année dernière et les saisons précédentes au PSG, je pense à Draxler, même Di Maria, il a fait quand même une bonne saison l'année dernière, mais parfois c'est pas toujours ça. Ils ont souvent déçu. Là, tu vois, le mec qui arrive, il a pas de statut, il a pas cette étiquette avec le transfert faramineux qui arrive. C'est un joueur qui vient d'un club plus modeste. Franchement, je pense qu'il arrive, je te dis pas sans pression, mais presque, tu vois. Il a moins la pression qu'un Draxler qui arrive avec la grosse étiquette de transfert sur le front, qui est un espoir du football allemand que tout le monde attend, qui a des responsabilités en sélection. Sarabia, t'en attends beaucoup moins.
Une différence,
et je pense qu'il pourra apporter dans ce
rôle-là. Draxler, il a pas fait il part pas titulaire, on va dire, si Neymar reste, on va dire, dans cette hypothèse-là, il part pas titulaire. Mais regarde, un mec comme Draxler, l'année dernière, il a réussi à faire beaucoup, beaucoup de matchs. alors qu'il partait pas titulaire si vraiment le
bien sûr. Bien sûr, mais t'es obligé d'avoir.
Mais il y a beaucoup de matchs à jouer quand t'es blessé.
C'était ce que je disais, c'est qu'un mec comme Sarabella, justement, attention, si le gars il est bon, si voilà, il confirme ce qu'il
mais
est.
Mais tu vas le voir jouer.
Exactement. C'est-à-dire que Sarabella est dans une position de transfert où il doit gagner sa place.
Chacun son tour, vas-y, Damien.
Il doit gagner sa place. Alors que Draxler est arrivé avec une étiquette, un gros transfert, en pensant que ça allait être facile d'intégrer le 11 du PSG. Lui, quand tu vois son état d'esprit, comment il a entamé cette saison, et même le match précédent, il est sur le terrain. Certes, c'est un match amical, mais il est là pour gagner une place.
Et il fera pas la gueule s'il est sur le banc, il fera pas la gueule s'il est pas titulaire en Ligue des Champions. Mmh. Et puis la saison, elle va être très longue. Paris va au bout quasiment à chaque fois dans les deux coupes. T'as le championnat. En Ligue des Champions, il y a une phase
grosse. T'as plus de 50 matchs joués par saison.
En moyenne, c'est 25 matchs, hein, même quand il est 10 ans dans la rotation.
Il les aura, ces 25-30 matchs, ça ira bien.
Mais du coup, Diallo, c'est la même chose. On pourrait dire que Diallo ne part pas titulaire, mais par contre, voilà, s'il confirme avec des performances, si par exemple la concurrence avec Kimpembe il passe devant, qui sait, il pourra faire aussi un nombre de matchs intéressants.
Après avoir tactiquement ce que cherche Tourelle, aujourd'hui, pour moi cette équipe elle est calibrée pour jouer à 3 derrière et t'as des joueurs de côté, Bernat et Meunier.
Et Meunier, mais
ça à 3, Diallo, Marquinhos, Thiago Silva.
Ouais.
C'est ça, ou même un Kerr, après un Kerr, parce que c'est
Kerr lui vaudrait mieux.
Axe droit, c'est le poste idéal pour lui, c'est un poste un peu
hybride. Et axe droit dans une défense à 3, ça sera encore
exactement
mieux pour lui.
Non, mais c'est ça, c'est ce que je dis, axe droit dans une défense à 3, c'est le poste parfait pour un Kerr. Mais t'as Diallo, un Thiago Silva, un Kimpembe, et puis t'es excentrique qui t'offre plus haut.
Tu mets Marquinhos.
Oui,
tu mets Marquinhos dans l'axe de la défense avec Thiago Silva, qui est entouré par Thiago Silva et Diallo. Tu mets plus haut.
Dans une rotation.
Exactement, plus haut.
Tu mets Marquinhos au centre de la défense à 3.
Bah, vu, oui. Bah, j'ai dit entre les deux, on verra tout le reste est mieux à même de faire le choix, mais je dis ça parce que Marquinhos a beaucoup joué au milieu la saison précédente.
Ouais,
devant
mais
la défense.
En faire une option. T'as vu que Tourelle a dit qu'il en ferait pour certains matchs peut-être.
C'est pour ça. C'est pour ça que je te dis une défense à 3, ça m'étonnerait pas que ce soit Marquinhos qui soit aligné dans l'axe de la défense. Après, tu mets Meunier et qui serait meilleur dans ce système-là. Bernat qui serait aussi meilleur. Au milieu de terrain, bah, du coup, tu mets Verratti avec Herrera.
Et devant, tu lui laisses se débrouiller.
Des merdes. Et là, tu mets les trois et t'as du feu.
Cette équipe-là a de la gueule. C'est sûr que si tu pars dans ce schéma-là tactique, tu as de quoi faire une bonne saison aussi. Mais bon, après, reste à savoir le chantier d'attaque. Reste à savoir comment tu l'abordes et comment.
Et avec qui surtout.
Et avec qui surtout.
Et dans ce schéma-là, ça permettrait justement de faire en sorte de bien faire cohabiter Mbappé et Cavani dans l'axe parce que t'aurais les deux pistons là, Meunier et Bernat qui joueraient le rôle d'ailier sur les phases de transition offensive, ça serait parfait.
C'est sûr que c'est blessé, Emma Thomas la hanche, un point sera fait après 24 heures de soins pour l'international belge. Je reviens dans un instant, merci Thomas d'avoir appelé au 32-16.
Merci à vous.
Thomas. Pour le débat autour du PSG, le recrutement du PSG est-il assez ambitieux, moins clinquant, plus modeste, mais peut-être plus pertinent. On en parle dans un instant.
Et grosse info OM.
Grosse info OM à venir. Grosse info, t'es sûr. Hein.
Grosse info sur Pipa Benedetto. Si ça concerne Pipa Benedetto, pour l'OM, c'est gros.
Pas le flop, la Guinée, c'est voilà, c'est une grosse info.
Toi, t'es.
Et Damien Perrinel avec nous.
C'est toi la petite garce, en fait, bonhomme, Nico.
Exactement. On vient dans un instant dans l'after pour tourner ensemble.
C'est pas Ben Sebaini.
RMC. L'after foot.